Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Coupe du monde de football 2018 en Russie, le premier match de la journée Brésil-Costa Rica est en cours à Saint-Pétersbourg. Le score à la mi-temps, 0 partout. Deuxième match au programme à 15h temps universel, une rencontre cruciale pour le Nigeria qui joue sa survie face à l'Islande à Volgograd. Les Super Eagles ont été vaincus 2-0 par la Croatie dans leur match d'ouverture alors que l'Islande a tenu tête à l'Argentine partout lors de sa première rencontre. Le troisième match de la journée opposera la Suisse à la Serbie à 18h temps universel à Kaliningrad. Conflit au Soudan du Sud, le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar s'entretiendront lundi prochain à Khartoum au Soudan pour leur deuxième série de discussions en près de 2 ans pour trouver une solution à la guerre civile dans leur pays. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement soudanais ce vendredi. Les pourparlers qui suivent un sommet régional des États d'Afrique de l'Est en Éthiopie pour relancer le processus de paix au Soudan du Sud auront lieu alors que l'ONU a donné jusqu'à fin juin aux belligérants pour arriver à un accord politique viable sous peine de sanctions. Le président soudanais Omar al-Béchir va accueillir ses pourparlers directs entre les deux leaders du Soudan du Sud le 25 juin à Khartoum, a indiqué le ministère soudanais des Affaires étrangères dans un communiqué. Le Soudan fera tout son possible pour que les négociations aboutissent, souligne le document. Une équipe technique de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, une organisation régionale d'Afrique de l'Est qui va réactiver le processus de paix sud-soudanais, doit arriver à Khartoum ce week-end pour aider à préparer les négociations. En RDC, poursuite à Kinshasa du débat sur le projet de loi relatif au statut d'ancien président élu qui est actuellement examiné en session extraordinaire par le Parlement congolais. Que contient ce projet? Élément de réponse avec John Lyndon, notre envoyé spécial à Kinshasa.
Dans les rues de Kinshasa, tout le monde y va de son commentaire sur le contenu de ce projet de loi. Selon les sources proches de l'Assemblée nationale interrogées par VOA Afrique, les anciens présidents élus pourront garder leurs avantages financiers, y compris leur salaire. Leur patrimoine, de même que celui des membres de leur famille, devront être protégés. Le gouvernement congolais est aussi tenu de prendre en charge les anciens présidents élus. Leurs familles devront par ailleurs bénéficier d'une protection. Mais s'il y a un point qui captive le débat ici, c'est bien celui de l'immunité dont pourraient bénéficier les anciens présidents élus. Sur ce point, nos sources à l'Assemblée nationale indiquent que le projet de loi sur le statut des anciens présidents contient effectivement des dispositions qui pourraient éventuellement offrir cette immunité. Certains parlementaires souhaitent par ailleurs étendre ce projet de loi aux leaders politiques de haut rang. Pour l'heure, rien n'est dit si cette disposition sera prise en compte. John Lyndon, Kinshasa, VOA Afrique.
On reste en RDC. Les 26 cas de polio enregistrés ces derniers mois dans le pays sont des dérivés du vaccin administré à des millions d'enfants, vu que la maladie a déjà été éradiquée en République démocratique du Congo. C'est ce qu'affirment les autorités médicales congolaises. Pour en savoir plus, Eddie Sango a joint à Kinshasa le directeur du programme élargi de vaccination, le docteur Guillaume Ngoyi Mwamba.
C'est une situation de mutation des virus, des souches qui sont utilisées dans le vaccin contre la polio, la souche du type 2 utilisée dans le vaccin polio oral qui arrivait au niveau des populations qui ont une insuffisance immunitaire collective peut arriver à se comporter maintenant comme étant des sauvages.
Est-ce qu'il y a un autre facteur qui favorise cela aussi?
Chaque corps ne se comporte pas de la même manière lorsqu'on introduit une substance étrangère. De la même manière, le vaccin, lorsqu'il est introduit dans le corps humain, chacun réagit de sa façon pour convertir en une immunité, en une protection.
Mais là, on parle de dérivation.
Lorsqu'on parle du virus dérivé de la souche vaccinale, c'est-à-dire le virus qui est dans le vaccin, il est là pour protéger, pas pour créer la maladie. Maintenant, dans les conditions précaires telles que nous avons dit, donc des mauvaises protections protection de la communauté lorsque la communauté n'est pas vaccinée. Lorsque on vient vacciner les populations qui ne sont pas à même de convertir le virus du vaccin en une protection, ce virus peut faire une mutation et se comporter d'une autre manière lorsqu'il arrive au niveau du tube digestif de ces enfants-là.
Comment managez-vous cette information de mutation de virus des souches vaccinales avec toutes les appréhensions qu'il y a autour de la vaccination?
Cette mutation se fait dans un environnement de faible immunité collective. C'est-à-dire que à des endroits là où nous n'avons pas pu vacciner un grand nombre d'enfants. On n'arrive pas à vacciner tous les enfants. Comme vous savez, il y a des enfants qui vivent dans des situations géographiques d'accès difficile. Parfois, ils ne sont pas couverts. Il y a des enfants qui ne sont pas vaccinés, tout simplement parce que les parents refusent la vaccination sous le label des sectes religieux. La solution, c'est la vaccination. On doit d'abord vacciner et protéger une masse importante d'enfants pour espérer arrêter ces poliovirus dérivés de la souche vaccinale.
Le docteur Guillaume Ngoyi Mwamba, directeur du programme élargi de vaccination à Kinshasa en RDC.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, en Gambie, le chef de la police a démissionné jeudi, trois jours après la mort de trois manifestants anti-pollution tués par une unité spéciale de la police. Le point avec Jean-Roger Bion.
David Koujabi, porte-parole de la police, a annoncé que Lindin Kinte, inspecteur général de la police, a présenté sa démission et qu'elle a été acceptée par le président Adama Barrow. Lundi matin, des policiers gambiens avaient fait irruption dans le village de Faraba Banta, à 50 km de Banjul. Ses habitants protestent depuis des semaines contre l'extraction de sable servant à la construction qui, selon eux, pollue les rizières de la région au bord du fleuve Gambie. Les policiers avaient tiré à balles réelles, tuant deux manifestants et un troisième a succombé à ses blessures. Le président Barrow avait condamné les violences policières et promis que justice serait faite et que de tels incidents ne se reproduiraient plus. D'ailleurs, le président gambien se rendra aujourd'hui à Faraba Banta pour participer à la prière et rencontrer le comité villageois de défense de l'environnement.
Au Sénégal voisin, fin du mouvement de contestation dans les établissements d'enseignement supérieur, les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ont décidé de mettre fin à partir du 25 juin à la grève qu'ils observaient depuis la mort d'un des leurs, Faloussène, tué par balle de 15 mai lors d'affrontements avec la police. Décision prise lors d'une assemblée générale des étudiants jeudi. Les détails avec Sédina Abagay, correspondant de VOA Afrique à Dakar.
À l'amphithéâtre de l'université Gaston Berger, les délégués de la coordination des étudiants de Saint-Louis ont fait face à des centaines d'étudiants avant de se résoudre à suspendre la grève initiée au lendemain de la mort de leur camarade Faloussène. Les étudiants n'ont finalement pas eu gain de cause malgré plusieurs semaines à mettre la pression sur l'État. Les revendications axées sur deux points n'ont pas été satisfaites. En effet, ils demandaient justice pour leur camarade tué tout en exigeant le départ des ministres impliqués dans cette affaire. Si d'un côté l'enquête suit son cours d'après le ministre de la Justice, de l'autre, les autorités en question sont toujours en poste. Face à la pression de leur base, mais aussi des parents et d'une partie de l'opinion publique, les étudiants de Saint-Louis rejoignent les classes tout en promettant de ne pas laisser la mort de leur camarade Faloussène impunie. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
L'Égypte défend un règlement juste et global du conflit israélo-palestinien. C'est ce qu'a déclaré hier le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi aux émissaires du chef de l'exécutif américain Donald Trump, qui effectue une tournée discrète au Moyen-Orient. Le point avec Bagassi Koura.
Jared Kushner, conseiller gendre de M. Trump, et l'émissaire spécial Jason Greenblatt ont été reçus hier au Caire par le président Abdel Fattah al-Sissi. Selon la présidence égyptienne, M. Sissi a défendu la solution à deux États sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine. Les émissaires américains sont arrivés mardi en Jordanie où ils ont rencontré le roi Abdallah II. Ils se sont rendus ensuite à Riyad pour discuter avec le prince héritier Mohamed Ben Salman. Ils doivent aller en Israël et au Qatar. Avant leur arrivée dans la région, l'autorité palestinienne a affirmé dans un communiqué que les efforts de paix américains étaient voués à l'échec. Elle a gelé les contacts avec Washington depuis que l'administration Trump a annoncé le 6 décembre la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Le 14 mai, les États-Unis ont transféré leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem.
Et pour terminer, la Cour de justice de la Communauté des États d'Afrique de l'Est a ordonné jeudi soir la levée de la suspension de l'hebdomadaire tanzanien Mseto, interdit de publication pour un article affirmant que la campagne électorale du président John Magufuli en 2015 a été financée par des pots de vin.